tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offre des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture de l'article de Gérard Noiriel, L'invention du Front populaire, et en illustration de la période 1940-1950, vous entendrez de Alfred Schnittke le concerto grosso numéro 1.
Ce qui est aujourd'hui connu dans les médias sous le terme passif d'acquis sociaux a en réalité fait l'objet de combats et de conquêtes. Ainsi, les droits gagnés en 1936 le furent principalement grâce aux grèves avec occupation d'usines. La mobilisation fut splendide, rien de magique pourtant. L'histoire longue de la classe ouvrière éclaire les conditions de la réussite de cette ample action collective. Le 3 mai 2016, en introduction du colloque « La gauche et le pouvoir », M. François Hollande, alors président de la République, a félicité les organisateurs d'avoir tenu cette rencontre le jour du 80e anniversaire de la victoire du Front populaire. C'était un bon moyen, selon lui, de « faire des comparaisons utiles dans le temps, dans l'espace et de tirer les leçons pour aujourd'hui ». Commémorer le Front populaire en privilégiant les élections législatives d'avril-mai 1936 n'est évidemment pas anodin. Cela permet de mettre l'accent sur le rôle des partis au détriment des luttes populaires. Pourtant, c'est le meilleur exemple que l'on puisse trouver dans notre histoire contemporaine quand on veut montrer que les progrès sociaux dépendent bien plus des mobilisations populaires que des programmes électoraux. En mai 1936, les radicaux, les socialistes et les communistes l'ont emporté d'une courte tête, 37,3% des inscrits contre 35,9% pour la droite. Leurs promesses sociales se limitaient à la réduction de la durée du travail sans diminution de salaire et à la création d'un fonds national de chômage. Cette timidité explique en partie que le Parti communiste ait refusé de participer au gouvernement dirigé par Léon Blum. Si le Front populaire est devenu un moment si marquant, c'est avant tout parce qu'il a pris sa source et trouvé sa raison d'être dans une extraordinaire mobilisation collective. Pour tenter d'en expliquer les raisons, il faut commencer par replacer l'événement dans l'histoire longue de la classe ouvrière française. À la différence de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, la première révolution industrielle n'a pas entraîné en France une rupture radicale avec le monde rural. La grande industrie se développe en prolongeant le modèle économique antérieur, dominé par des marchands-fabricants qui distribuent la matière première transformée en produits finis par une multitude d'ouvriers paysans enracinés dans leur village et travaillant en famille. Dans les grandes villes, et notamment à Paris, on trouve surtout des ouvriers artisans issus du monde des corporations d'ancien régime. Ils sont les principaux acteurs de tous les mouvements révolutionnaires qui secouent la capitale de 1789 jusqu'à la Commune de Paris en 1871. Un immense fossé sépare ces deux composantes du monde ouvrier. Cette hétérogénéité freine la constitution d'une classe ouvrière possédant une identité propre, entrave la naissance du droit du travail, pérennise les formes juridiques traditionnelles que sont le louage d'ouvrage et le marchandage.
Le meilleur exemple tiré de notre histoire contemporaine pour montrer que le progrès social dépend des mobilisations populaires.
Combat contre l'ordre nouveau. À la fin du XIXe siècle, la première crise majeure du capitalisme débouche sur une nouvelle révolution industrielle qui ouvre l'ère des grandes usines. Touchée de plein fouet par ces bouleversements, les deux principales composantes du monde ouvrier engagent un combat radical et multiforme contre l'ordre nouveau. Les grèves et les manifestations, souvent réprimées dans le sang, se multiplient. C'est à ce moment-là que s'impose, dans l'espace public, la figure du mineur, que naissent les syndicats et les partis se réclamant du prolétariat. Confédération Générale du Travail, CGT, Parti Ouvrier Français, POF. Cette mobilisation massive contraint le patronat des mines à signer les premières conventions collectives. C'est aussi le début de la législation sociale, illustrée notamment par les lois sur le repos hebdomadaire, la retraite ouvrière et paysanne, et surtout la naissance du Code du travail en 1910. La Première Guerre mondiale et la période de reconstruction qui la suit creusent de nouveaux clivages entre les composantes du monde ouvrier. Dans les secteurs les mieux protégés, chemin de fer, postes, services publics, etc., la cogestion tripartite, État, patronat, syndicat, institutionnalisée pendant la guerre grâce à l'Union sacrée, est pérennisée. C'est majoritairement dans ces branches que la CGT réformiste recrute. En revanche, dans la grande industrie, le mouvement ouvrier s'effondre après la répression féroce des grèves insurrectionnelles de 1919-1920. C'est dans les entreprises de plus de 500 ouvriers, là où la combativité était la plus forte avant 1914, que le recul des grèves est le plus net au cours des années 1920. Car dans l'industrie lourde du Nord et de l'Est, le recours massif à l'immigration pour remplacer les ouvriers morts au combat ou qui ont fui les zones sinistrées affaiblit fortement les traditions de lutte. Et dans l'industrie de transformation, les nouvelles usines qui se développent, surtout au sein des banlieues des grandes villes, attirent des ouvriers qualifiés, privilégiant des solutions individuelles en changeant constamment d'entreprise pour vendre leur force de travail au patron le plus offrant. Une instabilité massive qui entrave l'action collective malgré les efforts du Parti communiste et de la Confédération générale du travail unitaire. Et la lutte paya. La nouvelle crise du capitalisme déclenchée par l'effondrement de la bourse de Wall Street en octobre 1929 atteint la France en deux temps. Jusqu'en 1933, elle frappe surtout les franges les plus marginales de la société industrielle. Des centaines de milliers de travailleurs immigrés sont renvoyés dans leur pays d'origine et les ouvriers paysans, encore très nombreux, trouvent dans leur environnement rural des ressources qui limitent le recours au fonds de chômage. Mais à partir de 1933, la dépression touche de plein fouet le cœur d'un monde ouvrier plus français, plus masculin, plus qualifié, plus urbain que dans la période précédente. Le chômage prend des proportions gigantesques alors même que le système d'indemnisation est encore archaïque. De nombreux ouvriers qualifiés sont bloqués dans leur mobilité et parfois contraints d'occuper les emplois auparavant réservés aux immigrés. Les patrons, n'ayant plus les ressources nécessaires pour intensifier la mécanisation des tâches manuelles, privilégient désormais la rationalisation du travail. La rémunération au rendement et le travail à la chaîne se diffusent rapidement, notamment dans l'automobile. Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, le mouvement de grève qui caractérise le Front populaire n'a pas débuté au lendemain de la victoire électorale de la gauche. Son véritable point de départ date de 1933, lorsque les ouvriers qualifiés des grandes usines de construction mécanique sont directement frappés par la crise. C'est à ce moment-là que le Parti communiste commence à récolter les fruits d'une stratégie privilégiant l'action dans l'entreprise. S'il fallait désigner un événement fondateur, ce serait l'accident du 6 février 1933 à l'usine Renault de Billancourt. L'explosion d'une chaudière fait 8 morts et de nombreux blessés. Relayé par l'Humanité, cet événement tragique contribue fortement au processus d'identification des travailleurs à un « nous » ouvrier qui ne cessera de se consolider dans les mois et les années suivants. La conjoncture politique va jouer un grand rôle, elle aussi, dans le développement des luttes sociales. Le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite organisent une manifestation qui vire à l'émeute. La crainte d'un coup d'État suscite une réaction qui précipite la réunification du mouvement ouvrier et l'alliance des forces de gauche au sein d'un front antifasciste qui ouvre la voie au Front populaire. Ce réflexe unitaire encourage les travailleurs à s'engager dans l'action collective. Les grèves se multiplient, touchant des secteurs très divers. Fait nouveau, elles sont souvent victorieuses. Les femmes commencent à y jouer un rôle important. Cette première phase est essentielle, car c'est à ce moment-là que les ouvriers vont inventer les modes d'action et mettre au point les revendications qui se généraliseront en mai-juin 1936. L'exemple du conflit qui touche en novembre 1935 les forges d'Homécourt à Saint-Chamond est emblématique. Motivé par le rejet des mesures de rationalisation du travail, la grève s'accompagne pour la première fois d'une occupation des locaux qui durera 5 semaines. Les grévistes obtiennent des hausses de salaire, l'instauration de délégués du personnel et une classification des ouvriers en trois catégories en fonction de leurs qualifications. La victoire électorale de mai 1936 peut être vue comme l'étincelle qui a provoqué l'embrasement général. Le mouvement des grèves avec occupation connaît un premier point culminant au début de juin 1936, 150 entreprises occupées. Les négociations avec le patronat aboutissent le 8 juin aux accords de Matignon. Hausse des salaires, limitation de la durée du travail hebdomadaire à 40 heures, congés payés, généralisation des conventions collectives. Mais ces acquis ne suffisent pas à mettre un terme au mouvement, bien au contraire. Découvrons que la lutte paye, les fractions les plus éloignées de l'action syndicale et politique prennent le relais. Pratiquement toutes les branches de l'économie seront touchées, à l'exception des secteurs les mieux protégés, services, fonctions publiques, qui resteront fidèles à la collaboration de classe prônée par la CGT réformiste.
Des revendications sociales deviennent légitimes quand les dominés instaurent un rapport de force qui leur est favorable.
La désillusion de 1983. Finalement, la principale leçon que l'on peut tirer du Front populaire, c'est que des revendications sociales que les experts, les gouvernements et les patrons jugeaient utopiques, irréalistes, voire suicidaires, deviennent légitimes quand les dominés parviennent à construire un rapport de force qui leur est favorable. Le Front populaire montre aussi que les représentations collectives de la société sont bouleversées quand la classe ouvrière fait entendre sa voix. En 1936, le métallo de Billancourt prend la place du mineur du Nord. S'il ne représente qu'une partie du peuple en lutte, sa présence impose le respect pour le peuple tout entier. Les droites tenteront de faire croire que les grèves ont été orchestrées par Moscou. Mais jamais Léon Blum ne cautionnera cet argument. Un demi-siècle plus tard, la société française est à nouveau confrontée à une crise économique qui provoque l'effondrement des bastions de la grande industrie. En mai 1981, la victoire de François Mitterrand suscite un espoir dans les classes populaires. Un printemps syndical émerge dans l'industrie automobile sous l'impulsion des ouvriers spécialisés. Mais ceux-ci ne parviennent pas à entraîner dans leur sillage les autres composantes du monde ouvrier. Sous l'influence des médias qui multiplient les reportages montrant des musulmans faisant leurs prières dans les ateliers, Pierre Mauroy, le premier ministre socialiste, finira par déclarer en janvier 1983 « Les principales difficultés qui demeurent sont posées par des travailleurs immigrés qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises. » L'argument traditionnel de la droite visant à discréditer les luttes sociales en présentant les grévistes comme des agitateurs à la solde de l'étranger est alors avalisé par celui qui appartient au même parti et qui occupe la même fonction que Léon Blum en 1936. Le Front populaire est définitivement mort ce jour-là.
Thank you.